VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 19h30 à Dakar et à Rabat, 20h30 à Niamey. Bienvenue dans la troisième édition de notre édition du soir, le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Niger, l'opposant Amadou Djibo Ali condamné à 3 mois de prison avec sursis. Au Maroc, Nasser Zefzafi, leader de la contestation, a été placé en détention provisoire. Crise diplomatique dans le Golfe qui met tout le monde dans l'embarras. Et puis, nouveau démenti de la Russie qui nie fermement toute tentative de piratage électronique et électoral aux États-Unis. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, au Niger, un tribunal a donc condamné ce matin à 3 mois de prison avec sursis le président de la coalition des partis de l'opposition, Amadou Djibo Ali, dit Max, est accusé de proposer un complot visant à renverser le régime du président Mahamadou Issoufou. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Les avocats de Amadou Djibo Ali Dimax ont aussitôt décidé d'interjeter appel de la décision du tribunal de première instance de Niamey, Maître Souley Oumorou.
Nous ne sommes pas d'accord qu'un Nigérien puisse être poursuivi pour infraction politique au registre donc de l'atteinte à la sûreté de l'État. Cette décision ne peut être gardée par la Cour d'appel parce que c'est il va de l'honneur de la justice que le droit se rétablit, que la règle de droit soit appliquée par des gens qui jugent de façon collégiale, puisqu'ici nous avons été jugés par un juge unique.
Le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République va donc regagner son domicile ce lundi après 23 jours passés entre la police judiciaire et la prison civile de Niamey. Il a en effet été arrêté le 15 mai dernier et poursuivi pour un délit présumé de proposition de complot visant à renverser le régime lors d'un meeting du parti de M. Mahamadou, le chef de file de l'opposition qui vit en exil en France. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le prochain sommet du G5 Sahel se déroulera le 2 juillet à Bamako en présence du président français Emmanuel Macron. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères réunis au sein du G5 Sahel, soit le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. L'ambassadeur de France à l'ONU a par ailleurs annoncé que son pays allait demander au Conseil de sécurité d'autoriser la force conjointe destinée à lutter contre la menace djihadiste et les trafics, force que veut constituer le G5. 5 Sahel. Fin du mouvement social des enseignants en Guinée-Bissau après 3 semaines de grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et le recrutement dans la fonction publique de personnel contractuel. Cette annonce fait suite à des négociations entre les syndicats et les autorités. En RDC, le général Noumi Banza Ntabo John, ancien chef de la police congolaise, a été élevé par le président Joseph Kabila au grade de grand officier. Un titre honorifique. L'ex-chef de la police est considéré comme le suspect numéro 1 dans l'assassinat en 2010 de Floribert Chebeya, défenseur des droits de l'homme. L'Union africaine et les Nations unies ont proposé une réduction majeure de la MINUAD, leur force conjointe de maintien de la paix au Darfour, déployée il y a 10 ans et qui coûte $1 milliard par an. Un rapport conjoint envoyé au Conseil de sécurité le mois dernier recommande de baisser de 44% le plafond des effectifs militaires et de 30% ceux des policiers. Au Kenya, 4 personnes, dont 3 employés d'une ONG, ont été tuées lorsque leur véhicule a sauté sur une bombe artisanale sur une route dans l'est du pays. L'attentat a eu lieu près de la ville de Dadaab, qui abrite le plus grand camp de réfugiés du monde. Cette vague d'attentats, revendiquée pour la plupart par les Chebabs somaliens, a fait plus de 20 morts en un peu plus de 2 semaines dans la région. Vague de manifestations dans le nord du Maroc, Nasser Zefzafi, leader de la contestation, a été incarcéré et placé en détention provisoire. Le point avec Morgane Guériec.
Le juge d'instruction de la cour d'appel de Casablanca a décidé de placer en détention provisoire Nasser Zefzafi et 6 militants. C'est ce qu'a indiqué un avocat de la défense. De nombreuses accusations lourdes et exagérées pèsent sur Zefzafi, a-t-il déclaré. Nasser Zefzafi était recherché initialement pour avoir interrompu le 26 mai le prêche d'un imam dans une mosquée. Depuis, une quarantaine de personnes ont été interpellées, dont deux autres leaders du mouvement Irak, arrêtés lundi. Une vingtaine d'entre elles ont été présentées au parquet à Casablanca et placées en détention. Elles sont accusées de tentative d'homicide volontaire, atteinte à la sécurité intérieure, incitation contre l'intégrité du royaume et d'autres crimes. Al Hoceima, dans le nord du Maroc, est secouée depuis 7 mois par une révolte populaire suite à la mort accidentelle d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures.
Crise libyenne, l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie ont réitéré aujourd'hui à Alger le rejet de toute ingérence et d'une option militaire en Libye. Tunis, Alger et Le Caire sont préoccupés par l'insécurité à leurs frontières avec la Libye, mais ils ont réaffirmé leur attachement à une résolution politique du conflit. Et puis, suite des intempéries en Tunisie, 2 personnes sont mortes et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans l'agglomération de Tunis du fait des inondations. Le nord de la Tunisie a été balayé hier par une tempête, un phénomène rare en cette saison.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. En France, un policier a été agressé cet après-midi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris par un homme armé d'un marteau. La police a riposté avec son arme et a blessé son assaillant qui avait crié au moment de l'agression « C'est pour la Syrie ». Près de 1000 personnes ont été confinées par sécurité dans la cathédrale. Et puis avec quelques 13 millions de visiteurs par an, la cathédrale de Paris est le 2e site touristique le plus fréquenté de France après Disneyland Paris. Suite de l'enquête sur l'attentat de Londres du week-end dernier, Youssef Zagba, un Italo-Marocain de 22 ans, a été identifié par la police britannique comme étant le 3e auteur de l'attentat. En mars 2016, il avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour la Turquie pour probablement rejoindre la Syrie. Mais n'ayant pas assez d'éléments pour l'inculper pour terrorisme, les juges l'avaient alors relâché. La crise sans précédent entre le Qatar et ses 4 voisins, dont l'Arabie Saoudite, met nombre de pays dans l'embarras, dont la France, qui entretient de bonnes relations avec les 2 rivaux. Les précisions de Tatiana Mosso.
Selon Denis Bochard, chercheur à l'IFRI, les relations entre le Qatar et l'Arabie Saoudite ont toujours été mauvaises ces dernières années en raison de la télévision qatari Al Jazeera, du soutien de Doha au printemps arabe et aux frères musulmans. Mais cette toute dernière crise-là est particulière car elle est la retombée du voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite il y a 15 jours. La rupture avec Doha a sans doute été une initiative de Mohamed Ben Salman, vice-prince héritier d'Arabie Saoudite, qui joue à plein la réconciliation avec Washington. Mais cette décision a vraisemblablement été prise sans l'aval des États-Unis. Cette rupture met tout le monde dans l'embarras, y compris les États-Unis. Le Qatar abrite la plus grande base américaine dans la région. L'attitude générale va être d'éviter de prendre parti et d'inciter tout le monde au dialogue. La France est également embarrassée car elle a plutôt de bonnes relations avec le Qatar.
La Russie nie fermement toute tentative de piratage électoral aux États-Unis. Un démenti qui fait suite aux informations d'un média américain qui affirme, sur la foi d'un présumé document top secret, que le renseignement militaire russe a tenté de s'introduire dans les systèmes électoraux des États-Unis avant la présidentielle de 2016. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Le journal d'investigation en ligne The Intercept écrit que des opérations de piratage ont visé pendant plusieurs mois des entreprises privées qui offraient des services d'inscriptions électorales et des équipements aux collectivités locales, et ce quasiment jusqu'au jour de l'élection le 8 novembre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme que ces informations ne correspondent pas à la réalité et qu'il n'y a aucun argument confirmant leur authenticité. D'après The Intercept, les piratages décrits dans le document de la NSA seraient étroitement liés à l'agence de renseignement militaire russe, GRU. Le document ne précise toutefois pas si les piratages ont eu un quelconque effet sur l'élection remportée par Donald Trump. La Russie est régulièrement accusée d'interférence dans la présidentielle américaine, mais Moscou a toujours rejeté ces allégations. D'ailleurs, aux États-Unis, plusieurs enquêtes sont en cours sur cette ingérence présumée de la Russie.
En Russie, les services spéciaux ont mené des perquisitions au siège de l'église de Scientologie à Saint-Pétersbourg, accusée notamment d'extrémisme et de commerce illégal. Ces perquisitions interviennent après l'interdiction en mai par la justice russe des témoins de Jéhovah. Le Brésil va-t-il destituer un deuxième président? Le sort de l'actuel président Michel Temer, fragilisé par de graves accusations de corruption, est désormais entre les mains des juges du TSE, le Tribunal supérieur électoral, qui se retrouve ce soir, tous les juges se retrouvent ce soir pour délibérer. Ces 7 juges du TSE peuvent décider d'annuler purement et simplement le scrutin présidentiel de 2014 qui avait vu l'élection de Dilma Rousseff à la présidence et de M. Temer à la vice-présidence. Ce dernier avait accédé à la fonction suprême il y a un an après la destitution fracassante de Mme Rousseff pour maquillage de comptes publics. Et puis aux Philippines, un sénateur a interpellé la Cour pénale internationale de l'urgence face aux milliers de morts engendrés par la guerre antidrogue du président Duterte, craignant que la loi martiale imposée au Sud ne s'étende à l'ensemble de l'archipel. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'économie sud-africaine est officiellement entrée en récession pour la première fois depuis 2009. Le produit intérieur brut a reculé de 0,7% pour le second trimestre consécutif. Les faibles performances de la production électrique et manufacturière sont à l'origine de ce recul. Seuls les secteurs miniers agricoles sont dans le vert. $1 milliard d'investissement israélien dans l'espace CDAO, ce financement sur 4 ans contribuera au développement d'infrastructures solaires au sein des 15 pays membres. Un accord a déjà été signé pour un parc solaire d'une valeur de $20 millions au bénéfice de l'aéroport international Rabat au Liberia. Au Sénégal, la Compagnie nationale d'électricité, ou Senelec, perd environ $46 millions chaque année. Ce déficit est lié au vol et à la fraude d'électricité. Pour combattre ce fléau, une brigade spéciale constituée d'anciens gendarmes et policiers sera mise en place pour opérer sur l'ensemble du territoire national. La conférence sur la politique foncière en Afrique aura lieu entre le 14 et le 17 novembre prochain et se penchera notamment sur l'accès inclusif et équitable de la jeunesse à la terre, un programme conjoint de la Commission de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique, des Nations unies et de la Banque africaine de développement sont à l'origine de cette rencontre.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors bien sûr, on parle de foot et un nouveau club pour le Camerounais Aurélien Tchedjou.
Arrivé en fin de contrat après 4 saisons passées à Galatasaray, l'international camerounais Aurélien Tchedjou change d'air mais reste en Turquie. Le défenseur central de 31 ans s'est engagé pour 3 ans en faveur de l'Istanbul Başakşehir, deuxième du championnat cette saison et qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Autre départ annoncé, celui de Pepe qui quitte le Real.
Le défenseur international portugais Pepe, 34 ans, va quitter le Real Madrid après 10 saisons passées sous le maillot madrilène. Il est clair que je ne reste pas, j'ai décidé que je m'en irai à partir de janvier quand j'ai vu que ce que me proposait le club n'était pas idéal pour moi, a déclaré le joueur la nuit dernière sur les ondes de la radio espagnole Cadena Cope. Le natif du Brésil, vainqueur de l'Euro 2016 avec la sélection portugaise, a expliqué que le Real ne lui avait proposé qu'une prolongation de contrat d'un an alors que son bail s'achève fin juin. Les manières du Real Madrid n'ont pas été correctes, a ajouté Pepe, qui garde un peu de rancœur envers son entraîneur Zinedine Zidane. On l'annonce peut-être au Paris Saint-Germain ou à l'Inter Milan. On rappelle que Pepe, en 10 saisons au Real, a gagné 3 Ligues des Champions, 3 Ligas et 2 Coupes du Roi.
Et le retour d'Usain Bolt en athlétisme.
Le Jamaïcain Usain Bolt va participer aux 100 mètres de la Réunion d'Ostrava en République tchèque. Ce sera le 28 juin pour sa première compétition européenne avant les Mondiaux de Londres. Ce sera la 9e et dernière participation à Ostrava du détenteur du record du 100 mètres, du 200 mètres et octuple médaillé d'or aux Jeux Olympiques. On rappelle qu'Usain Bolt mettra à 31 ans un terme à sa prolifique carrière à l'issue de la saison 2017, dont le point d'orgue sera les Mondiaux d'athlétisme qui auront lieu en août prochain à Londres. Usain Bolt qui aimerait se reconvertir dans le football.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. À Monrovia, à l'issue du 51e sommet, la CEDEAO a donné son accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc. Sauf surprise, c'est à présent une affaire de mois avant que le Royaume n'intègre l'organisation sous-régionale. Quels sont les enjeux? Ekiabadou a joint à Paris Lansana Kouyaté, ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO et ancien Premier ministre guinéen.
Je crois que c'est une très bonne chance pour la CEDEAO. Le Maroc est un grand pays qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Et vous avez l'Union du Maghreb uni où le Maroc participait, mais qui n'est pas fonctionnel. Je crois que c'est une chance pour les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une chance pour le Maroc parce que la CEDEAO, c'est l'intégration des États, et qu'il s'agisse de commerce, qu'il s'agisse de transfert de technologie, qu'il s'agisse de la libre circulation des personnes et des biens, et toutes règles auxquelles le Maroc se pliera très facilement, parce que c'est un pays ouvert. Il faut saluer ce courage d'ailleurs de Sa Majesté le roi Mohamed VI, parce que c'est une des décisions opportunes.
Est-ce que vous pensez que l'entrée du Maroc à la CEDEAO pourrait décrisper les relations entre les populations d'Afrique subsaharienne et celles du Maghreb? De nombreux ressortissants d'Afrique subsaharienne se sont plaints de mauvais traitements au Maroc notamment.
L'effort revient aux pays, n'est-ce pas, d'origine, qui doivent investir mieux dans la jeunesse. Pour cela, il faut créer de l'emploi. Il faut que ces jeunes ne désespèrent pas pour aller ailleurs. Cela dit, je crois que la coopération entre pays d'origine et pays de transit, le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est une coopération qui peut permettre de porter un regard d'espoir sur la stabilisation de nos populations par justement le développement.
Vous disiez que le Maroc a des moyens, va permettre une certaine émergence. Selon vous, l'arrivée du Maroc, c'est aussi quelque chose qui économiquement va être une impulsion?
Le Maroc a une longueur d'avance sur les pays subsahariens, surtout sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut le reconnaître. J'étais là-bas il n'y a pas longtemps encore. J'ai vu comment les investissements sont menés et comment l'ouverture du Maroc au reste du monde, d'ailleurs, a permis au Maroc, n'est-ce pas, d'engranger tout ce qu'il y a comme avantage. Je crois que c'est un plus pour la CEDEAO.
Lansana Kouyaté, ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO et ancien Premier ministre guinéen.
Dans Washington Forum ce jeudi, pour la première fois, l'ONU organise une conférence internationale dédiée à l'océan. Les représentants des États et des différents secteurs maritimes du monde entier se rassemblent cette semaine à New York avec un seul objectif, préserver les mers et les océans. Comment lutter contre la pêche illégale au large du Sénégal? Quels remparts face à la montée des eaux pour sauver les côtes ouest africaines? Qui peut empêcher la piraterie maritime dans les golfes d'Aden et de Guinée? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
En Côte d'Ivoire, à la faveur de la guerre en 2002, est apparu un nouveau mode de transport pour les habitants de Boaké, fief de l'ex-rébellion ivoirienne, les mototaxis. Surchargés, avec parfois 3, 4, voire 5 passagers, sans aucune protection, les mototaxis se faufilent entre les taxis communaux sans aucune crainte. Les accidents de la route font désormais partie du quotidien des populations. Incursion sur les routes de Boaké avec Siri Kibaro, notre correspondant sur place.
Les mototaxis ont incontestablement pignon sur rue dans le transport en commun à Boaké. Ces engins à deux roues ont fait une entrée remarquable sur les routes. Ils sont accusés de créer le désordre et tous les drames que connaissent les usagers. Une chose est certaine, les statistiques sur les cas d'accidents de la route font froid dans le dos, nous confesse le capitaine Kwaku Kofi Herman. Il est l'adjoint au commandant de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires. Selon les statistiques qu'il nous a révélées, en 2016, 957 cas d'accidents impliquant des motos ont été relevés. Et pour le premier trimestre de l'année 2017, déjà 152 cas sont enregistrés. Malgré Malgré ces chiffres, les chauffeurs de mototaxi, analphabètes pour certains, déscolarisés pour d'autres ou encore diplômés sans emploi, ont une explication.
Au niveau de l'accident, c'est les Ouïmans qui provoquent tout ça. Les chauffeurs de taxi de Ouïdu, là, eux tous même, là, c'est par mototaxi qu'ils ont commencé. Et ils sont jaloux de nous.
Mototaxi, on m'appelle Lyon Danger. Beaucoup d'accidents de mototaxi, c'est taximètre qui fait. Dès qu'il client arrête taximètre, il sert devant nous.
À ces accusations, les chauffeurs de taxi répondent en mettant en avant l'incivisme et le manque de connaissance du code de la route de leurs concurrents à deux roues.
Celui qui est en ville, qui a eu un peu d'argent, il achète une moto, il appelle son frère qui est au village. On ne lui explique rien, on lui donne la moto, on lui dit va. Quand ils conduisent mal, tu gars auprès d'eux pour leur dire, ah le frère, c'est pas comme ça on fait, il va t'insulter.
Elle achète. L'accident de la route, ça arrive, c'est tout à fait normal quand tu es dans la circulation. Sinon, pour faire exprès, pour poigner quelqu'un, c'est faux.
À Boisquet, le transport des biens et des personnes par les mototaxis est en perpétuelle évolution. Et cela, malgré l'existence de textes de loi interdisant l'usage de motos à des fins de transport en commun. Niamien Philippe est chef de service au bureau régional des transports routiers.
Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui autorise le fait du taxi avec les deux roues. Ce phénomène a une histoire par rapport à la crise. L'État n'avait pas la même mise au niveau de Boisquet. Ça traînait jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas freiner cela. Il faut pouvoir trouver des activités pour ces gens. Et comment le trouver? C'est tout ce qui fait que la situation est perdue.
Les autorités disent réfléchir à des solutions pour endiguer ou réglementer la montée en puissance des mototaxis. En attendant, les populations qui ont besoin de se déplacer sont au centre de cette bataille de la chaussée entre taxi et mototaxi. Siriki Barreau, Boisquet, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
À l'instar des autres régions du Mali, les candidats au DEF, le diplôme d'études fondamentales des régions de Gao et Menaka, au nombre de 5178, ont commencé leurs épreuves dans 199 salles de classe. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées cette année, ils gardent espoir. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour la circonstance. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
5198 candidats sont concernés pour l'examen du DEF session de juin 2017 pour les régions de Gao et Menaka. Ils composeront dans 59 centres. 396 enseignants sont mobilisés pour la surveillance. Ce matin, nous avons fait le tour dans certains centres d'examen. Les élèves interrogés trouvent que les sujets sont très abordables.
Aïgourou, c'est facile. On nous a demandé de faire une lettre ordinaire.
Je m'appelle Salmata, centre de Blougoundé. Ça va un peu. Le premier sujet, demander le monsieur le maire ou le ONG pour nous aider de trouver de l'eau dans notre quartier. Si c'était un bon maire, il va nous aider.
La fille Maman Haïdara, centre de Djoulabougou. Ah, on n'a pas vu de difficultés. On nous a donné trois sujets. De parler sur la pénurie de l'eau et un sujet sur l'insalubrité. Moi, j'ai choisi le sujet numéro 3. Sur l'IFM.
Tes parents peuvent espérer sur toi?
Oui.
C'est sûr?
Sûr et certain. Ouais. Papa et maman comptaient sur moi cette année, Inch'Allah. Ça ira, Inch'Allah.
Malgré les quelques trois mois d'arrêt de travail, les enseignants à la reprise ont mis les bouchées doubles pour attraper le retard à en croire Oumar Touré, surveillant au centre de Djoulabougou.
La rédaction qu'on vient de finir tout de suite, il y a eu trois sujets très abordables, de lettres et de récits, des sujets qui parlent aujourd'hui de l'actualité, de ce que nous vivons apparemment à Gao, parce que ça parle non seulement de la pénurie d'eau, ça parle de l'environnement qui est sale et ça parle du travail de l'enseignant de l'IFM. Je crois qu'ils vont s'en sortir.
Malgré que vous avez fait trois mois d'arrêt de travail.
Oui, bon, trois mois d'arrêt de travail, mais je crois que les enseignants ont fait en sorte que les élèves, après la reprise, les élèves puissent avoir le maximum d'informations sur les différents thèmes. Cette année, ce n'est pas facile. J'ose croire quand même que le maximum a été fait dans les écoles.
Il faut rappeler que l'examen du DEF va durer trois jours. Les épreuves qui ont commencé ce matin se déroulent normalement sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Vietnam, un blogueur a perdu sa nationalité vietnamienne. Pham Minh Ong, professeur de mathématiques, avait déjà été arrêté et condamné à 3 ans de prison. Ses blogs et publications sur Facebook ne sont pas du goût des autorités qui ont annoncé le retrait pur et simple de sa nationalité vietnamienne. Idriss Fall a joint à Ho Chi Minh Ville le blogueur Pham Minh Ong.
Le 1er juin dernier, le consul français à Ho Chi Minh Ville au Vietnam m'a informé que le président du Vietnam a signé un document dans lequel il retire ma nationalité vietnamienne. J'ajoute que j'ai une double nationalité franco-vietnamienne. J'étais très très bouleversé. Cela conduit directement à mon émigration vers la France. La situation familiale est très très particulière puisque moi j'ai une nationalité française tandis que ma femme elle n'en a pas. En plus, elle doit rester pour surveiller mon frère, qui est handicapé à 100%, et aussi sa mère très âgée. C'est une catastrophe pour ma famille.
Qu'est-ce qui a amené le gouvernement du Vietnam à vous retirer la nationalité?
Pour l'instant, la raison officielle, je ne connais pas, puisque ni moi, ni les représentants diplomatiques français au Vietnam, personne n'a vu le document signé par le président. L'ambassade de France à Hanoï a seulement informé verbalement qu'il existe ce genre de document. Il n'en a pas, le consul français n'en a pas, moi j'en ai pas non plus, et personne ne l'a.
Mais vous étiez professeur de mathématiques à l'université. Comment est-ce que vous êtes arrivé à perdre votre travail alors?
Je suis né au Vietnam il y a 62 ans. Lorsque j'ai eu 18 ans, je suis allé à Paris pour faire mes études à l'université à Paris. Et en l'an 2000, je retourne au Vietnam et j'ai trouvé un travail comme enseignant de mathématiques à l'Institut Polytechnique à Ho Chi Minh Ville. Et pendant 10 ans, j'ai enseigné mathématiques appliquées à cette université. Mais pendant les temps libres, parler avec les jeunes sur les problèmes du Vietnam, la démocratie, l'environnement et la corruption au Vietnam. Et je publie sur les réseaux sociaux. Tout ceci n'est pas plein au gouvernement. Ils m'ont arrêté, ils m'ont condamné de tentative de renversement de l'État populaire. J'ai été condamné à 17 mois de prison plus 3 ans de résidence surveillée. Depuis que j'ai été libéré, j'ai perdu mon emploi. Si j'ai essayé d'avoir le contact avec les jeunes, on m'interdit tout de suite. Il y a à peu près plus d'un an, j'ai organisé une sorte d'échange de points de vue avec les jeunes sur des choses vraiment très 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 banales. Parler de la démocratie, des droits de l'homme, de l'histoire du Vietnam, de la constitution du Vietnam. Et là, la police arrive, et arrête tout le monde. Et on confisque tous les matériels électroniques. Voilà ce qui s'est passé au Vietnam et ce qui s'est passé à moi.
Pham Minh Ong, professeur de mathématiques et blogueur à Ho Chi Minh Ville au Vietnam.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Georges Léonard Sagno, à la console Wagner Roberts, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet voaafrique.com et notre page Facebook, bien sûr, Facebook où l'on maintient la conversation. Likez, réagissez, commentez les actualités, nous sommes là. Tout de suite, retrouvez l'émission en direct de Roger Muntou, le RM Show, avec bien entendu un nouveau point sur l'actualité juste avant. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.